Ce livre, en fait, s'adresse surtout aux professionnels de la carrière, mais aussi au grand public qui est intéressé par la douance à en savoir plus sur c'est quoi la douance, ça mange quoi en hiver?
Les Neurodivertissantes, le podcast qui célèbre l'unicité neurodivergente et qui explose les préjugés pour un monde plus inclusif.
Épisode 22, douance et carrière. Entrevue avec Sabrina Gendron-Fontaine.
Avec vos animatrices Solène Métayer, Fran Deloum et Mélissa Saint-Louis. Accrochez-vous, il y a de l'idée à la minute ici.
Allô, allô tout le monde! Bienvenue, re-bienvenue à cet épisode de Les Neurodivertissantes. On est vraiment, vraiment très excités aujourd'hui parce que nous sommes accompagnés d'une invitée. Mais avant tout, je suis avec Mélissa comme co-host aujourd'hui et notre invitée, Sabrina Gendron-Fontaine de tous ses petits noms. Ben, on a failli vous mentir. On a failli vous mentir parce qu'on allait vous la présenter comme une conseillère en développement de carrière, sauf que ça adonne que hier, elle s'est comme transformée tel un Pokémon puis elle est devenue une conseillère d'orientation. C'est point O, point minuscule pour les intimes. Fait que sur ce, comment allez-vous, mesdames?
Bon matin. Attends, main d'applaudissement.
Comment ça va, Mélissa?
Hey, ça va bien, ça va bien. Et puis toi, Sabrina, comment vas-tu?
Hey, ça va super bien. Merci de me recevoir. Et oui, c'est ça, j'ai évolué. Faudrait dire qu'en fait, c'est juste un... C'est dommage, mais c'est un bout de papier, hein? Fait que finalement, je m'étais dit, hey, je serais transformée. Puis là, ben, je me sentais pas mal pareil à 2 minutes avant que je le sois. Mais quand même, ça m'amène tout plein d'actes et, tu sais, surtout une responsabilité professionnelle. Fait que je suis bien contente de ça, de me présenter aujourd'hui avec vous comme CEO. Voilà.
Oui! C'est vraiment une bonne nouvelle. Fait que t'as pas de super pouvoirs qui sont ajoutés. Tu peux pas faire des plus gros éclairs qu'avant ou des plus gros canaux d'eau.
Non. Ben non, malheureusement, j'ai fait pas mal la même chose qu'avant. C'est juste que là, j'ai officiellement le droit de le faire ouvertement et de l'annoncer au monde.
Monde, sache la bonne nouvelle.
Puis, on sait qu'on en a besoin du monde comme toi, des conseillers en orientation qui connaissent, on va rentrer dans le vif du sujet, là, mais qui connaissent la douance, qui connaissent toutes les spécificités qui viennent avec. Avec la douance, grosso modo, parce qu'on sait, des fois, c'est pas nécessairement qu'est-ce qu'on va faire dans la vie, mais c'est qu'est-ce qu'on ne fera pas, parce que tout le reste pourrait être peut-être possible. Bref, hashtag multipotentialité, maybe, là. Sada n'est pas là aujourd'hui, je parle en anglais.
Non, ne la torture pas, elle va nous écouter. Puis j'ai goût de dire aussi, on est nombreux et nombreuses à être passés par la case conseiller, conseillère d'orientation au secondaire, dans une petite case avec des petits tests qui nous disaient pas grand-chose ou qui nous donnaient un chemin. Donc je suis très heureuse, Sabrina, que tu puisses venir un peu nuancer cette vision de nos expériences passées.
parenthèse, peux-tu commencer tout en divergent? Je me souviens, au secondaire, le conseiller en orientation, jadis, je suis pas si vieille que ça, là, je vais avoir 36 ans, là. À ce moment-là, je voulais être enquêteur à la police, et il m'a dit que j'étais une femme.
Ah! J'aime le rire qui pleure à moitié.
Ouais, en fait, tu sais, j'aimerais ça quand même nuancer le fait que, souvent, les CO au secondaire, on va se le dire, là, puis là, ça fait quand même longtemps, puis tu sais, on s'entend que, tu sais, moi, je viens de l'UQAM, OK? Alors, on a une approche à l'UQAM, mais il y a d'autres universités qui existent. Bref, ça fait en sorte qu'on a... On a toutes des pratiques un peu différentes, mais c'est vrai que la plupart du temps, l'expérience qu'ont les gens des CO en général au secondaire, c'est tu passes un test, puis hey, tu vas être clown. Ça y est, c'est ça que tu vas faire parce que tu as 3 lettres qui te disent que c'est ça qui est comme ta profession de rêve. Puis le truc, c'est que c'est pas vraiment comme ça qu'on est formé, premièrement, tu sais, surtout aujourd'hui. Et c'est surtout une question de manque de ressources. T'sais, on pourrait faire un autre épisode là-dessus, sur le manque de ressources. Mais clairement, d'avoir un conseiller d'orientation qui travaille 3 jours/semaine dans 4 écoles différentes avec 3000 élèves, c'est très, très difficile pour le CO de vraiment faire des processus où tu amènes à la personne à explorer qui elle est, à mieux se comprendre, à explorer les options, puis à finir par trouver les options qui lui conviennent le plus, parce qu'elle a une rencontre par élève. Fait que, qu'est-ce qu'on fait? On fait passer un test, puis ça y est, voici ça. Ce que tu pourrais faire. Voilà.
Puis, j'ai le goût de dire, bon, comme tu dis, la pratique, elle a évolué aussi entre-temps. Donc, il y a le manque de ressources, il y a l'actualisation des connaissances. Mais reste que moi, j'ai encore ma petite pochette avec le fameux test, là. Puis, je me souviens très, très bien que les résultats du test, sérieux, les traits neurodivergents ressortaient d'un brin. Fait que j'aurais peut-être dû voir ça comme un indicateur. Mais Lisa, t'avais goût de réagir? Je peux-tu
juste... Non, mais en fait, je voulais juste dire, tu sais, le fameux MBTI qu'on passe à l'école, là.
T'as passé le MBTI à l'école?
Ouais, au secondaire, puis j'avais été troublée à quel point ça sortait que, comme je devais être prêtre. J'étais comme, mais ça aussi, qu'est-ce que je fais?
Ah, puis il y a aussi le fait qu'on dirait qu'il y avait comme 15 options de carrière dans ces tests-là, tu sais. C'est comme, c'était des grandes catégories, alors que, tu sais, surtout maintenant, le monde du travail a tellement évolué, mais je veux dire, les carrières sont rendues tellement... Tu peux faire des dissociations puis des amalgames de passions et d'intérêts puis en faire une carrière de nos jours, là, c'est vraiment incroyable.
Oui, mais bref, tu sais, oui, j'avais eu cette expérience un peu malencontreuse au secondaire, mais plus tard dans la vie, j'ai été voir dans un centre d'aide à l'emploi, je sais pas trop, là, d'Emploi Québec, j'avais vu une orientrice, conseillère en orientation.
Oui, oui, c'est bon, super, effectivement.
Pardon, on va casser les lapsus, mais... À ce moment-là, ça avait été super. Puis elle m'avait sorti, tu sais, c'était un peu, je pense que ça ressortait à ce niveau-là aussi, cette espèce de multipotentialité-là, de se dire, OK, ben soit que tu t'en vas dans les arts ou en gestion. Je suis comme, OK, mais il y a où l'entre-deux? mais sachant que j'ai fini par y arriver avec, tu sais, ma carrière, ça prend juste beaucoup de créativité, je pense, pour être gestionnaire tout en étant très artiste. Mais tout ça pour dire que c'est ça. Fait qu'on s'est rencontrés il y a quelques mois, dans le fond, nous deux, Sabrina puis moi, parce que tu faisais un appel à tous, en fait, sur LinkedIn pour trouver des gens qui étaient doués puis qui voulaient parler un peu de leur historique de carrière. Fait que moi, très volontaire, je t'avais contactée. Puis je savais que tu connaissais aussi Mélanie. Puis tu voulais rencontrer ces personnes-là pour écrire un livre.
Juste préciser qu'on parle de Mélanie Chevrier, qui a été notre invitée dans un épisode précédent. Oui. Tu sais, pour l'auditoire,
merci,
on s'en met en contexte.
Excuse-moi, ouais. on est trop dans les intimes en ce moment, c'est pour ça. Fait qu'on s'était rencontrés à ce moment-là, on s'était jasé, je t'avais raconté un peu mon épopée.
Ben oui, absolument. Ça a été super intéressant de rencontrer plusieurs personnes douées et twice, donc doublement exceptionnelles, hein, douées en CDAH et tout ça. Puis oui, effectivement, c'est ça. Dans le fond, moi, mon but, c'était d'avoir des témoignages les plus réalistes possibles dans le but de montrer ça un peu, tu sais, de composer, bon, des cas plus fictifs, mais à travers des témoignages réels. Tu sais, parce que pour moi, c'est important quand même que, tu sais, un livre... Puis là, ben on n'a pas vraiment introduit le sujet du livre.
On y arrive.
Mais bref, que ce soit quand même que ce soit quand même basé sur des choses, tu sais, sur du vécu, donc du vécu réel.
Bon, c'est effectivement, Sabrina, tu nous ramènes bien à l'ordre. Moi, je trouve qu'il serait temps qu'on te présente un peu plus dans ton parcours et le pourquoi on voulait un épisode aujourd'hui qui est pour parler de ce fameux livre dont on sous-entend depuis tantôt. Fait que veux-tu nous parler de ton parcours puis de comment tu en es arrivée à écrire un livre, sérieux, quel accomplissement! Moi, je suis impressionnée.
Merci! Bien, vraiment, je dirais que d'abord, le pouvoir des opportunités en développement de carrière, c'est super important. Mais bref, je vais comme expliquer mon parcours, puis ça va peut-être prendre son sens. Bien, je dirais d'abord que je suis une personne vraiment multipotentielle. On en a parlé un peu là, de la multipotentialité, mais en fait, c'est le fait d'avoir vraiment là, une variété puis un range, si on veut, d'intérêts très, 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 très divers, puis de vouloir un peu investir dans tous ces intérêts-là en même temps, ce qui est un petit peu difficile, à la fois pour la gestion du temps, puis parce que, ben, on est dans une société qui va plus valoriser le fait de se spécialiser dans un sujet, de faire un choix de programme, parce que c'est ainsi que le système est construit. Mais bref, pour revenir un peu au parcours, ben, ça va être difficile de faire simple, hein, parce que, étant donné que je suis une personne multipotentielle, ben, j'ai un parcours très, très atypique. Là, je vois un chat, puis je suis comme « Ah! Un chat! »
Ouais, genre bon. Un chat un peu trop obèse qui avait de la misère à grimper.
Ok, elle n'est pas obèse, c'est une petite poire, ok, on ne la juge pas. Puis, by the way, j'espère qu'elle ne va pas nous crier dans les oreilles, c'est tout ce que je souhaite.
D'accord, ben, en tout cas, on va l'accueillir comme elle est. Et puis, c'est ça, donc, en fait, moi, j'ai commencé mon parcours mon parcours au cégep, j'étais en arts plastiques. Okay. Alors moi, mon but, depuis toute jeune, je dessinais, je faisais de la peinture, j'aimais beaucoup ça, puis j'avais envie d'investir ça. Turns out que je me suis pas retrouvée là-dedans parce qu'à un moment donné, ben en art plastique au cégep, ça devient plus sérieux. Puis les gens nous notent sur ce qu'on fait. Puis je voyais pas le sens là-dedans. Je me disais, ben voyons donc, qu'on va aller noter des créations qui proviennent de notre psyché, tu sais, de vraiment, de toutes nos pensées, notre bagage, puis qu'on va aller apposer une note là-dessus. En tout cas, là, j'étais plus trop à l'aise. J'ai comme vécu une dissociation, tu sais, avec mon identité d'artiste, puis tu sais, ouais, Mélissa veut dire de quoi, hein, je pense.
Ouais, mais je voulais juste te dire, je te file tellement, parce qu'à l'université, j'ai été en art plastique pour peut-être devenir prof d'art, parce que, tu sais, justement, les arts versus la gestion. Puis non, j'ai vécu un peu la même chose. Un prof qui m'avait donné un C en sculpture, parce que c'était un cours d'exploration, puis j'avais pas détruit ma création 5-6 fois. Fait comme, ah non, je n'aime pas celui-là, je recommence. Puis vu que j'avais fait d'un coup, ben, il m'avait donné un C. Fait que je file vraiment là-dedans.
Ça c'est vrai que c'est contre-intuitif d'aller noter la créativité, puis l'art, je suis comme, non.
Ben, en fait, c'est que tu sais, encore une fois, c'est un peu le système scolaire qui nécessite qu'on appose des notes. Ouais. Sur des travaux, alors qu'il faudrait plus penser à c'est quoi le processus. Mais bon, on pourrait en parler très longtemps de ça, de ma vision des choses à ce niveau-là. Mais bref, je me suis vraiment longuement questionnée, mais en même temps, étant donné que j'avais quand même des très bonnes compétences en français, j'ai commencé à travailler au Centre d'aide en français de mon cégep. Allô à toutes les personnes qui vont s'identifier comme ayant travaillé avec moi. C'est ça, dans le fond, j'ai comme réalisé que j'aimais beaucoup les langues. Puis il y a aussi que ça a comme un aspect peut-être, tu sais, un peu plus scientifique, peut-être un petit peu plus régulier, tu sais, dans les langues. Objectif, on va dire, ouais, exactement. Puis donc, à ce moment-là, je me suis redirigée et j'ai fait mon DEC en arts et lettres profil langue. Alors là, ben j'ai eu contact avec la littérature, mais aussi l'anglais, l'espagnol, l'allemand, etc. T'sais, j'ai comme appris beaucoup. J'ai comme décidé à ce moment-là de me questionner pendant que j'étudiais, ce qui était quand même une bonne chose, parce que sinon, tu perds beaucoup de temps à attendre que l'autre programme s'ouvre. Ce qui s'est passé en arts plastiques, où j'ai attendu vraiment longtemps, puis je faisais des cours de base, puis j'étais comme, mais pas très engagée. C'est ça. Puis je me disais, c'est quoi que j'aime vraiment là-dedans? T'sais, est-ce que c'est vraiment le fait d'apprendre des langues puis d'étudier la langue ou plutôt le contact avec les personnes que j'aidais en français écrit, tu sais? Et donc, finalement, je me suis dit, il me semble que la relation d'aide, c'est ça qui m'allume vraiment. Et je suis moi-même allée voir un conseiller d'orientation au cégep. Puis finalement, je me suis redirigée en psychoéducation. Alors, parce que dans psychoéducation, il y avait psycho, puis il y avait éducation. Puis j'étais comme, magie. Hey, j'arrive pas à choisir entre les deux, fait que je vais aller en psychoéducation. Pourquoi pas? Tu sais, avec toute la grande connaissance que j'avais de ce domaine-là, tu sais. Hashtag sarcasme, là. En tout cas, fait
que... Merci de préciser la lecture entre les lignes, j'adore.
Oui, c'est ça, tu sais. Disons que j'avais pas énormément réfléchi. Puis bon, peut-être que ça donnait l'impression que j'avais bien réfléchi. Fait que, tu sais, le CO était comme, vas-y fort. Et puis, je me suis ramassée dans ce programme-là où, j'étais super intéressée par tout ce qui était psychopathologie, tu sais, le développement de l'humain, super intéressant. Mais est venu le temps de rentrer en stage puis de vraiment avoir un contact avec des gens qui sont en mésadaptation, tu sais, tout le temps, parce que c'est ça, la psychoéducation, finalement. J'ai choqué ma vie, on va dire ça comme ça. Je sentais une sensibilité chez moi qui ne me permettait pas, en fait, de faire ça. Puis, là, à ce moment-là, j'ai encore vécu une perte de sens. Bref, ça m'est arrivé souvent, ça, dans mes bifurcations. Puis à ce moment-là, ben, j'ai revu une autre CO de l'université. Et puis, on a vraiment fait un bon processus, tu sais, un bon 4-5 rencontres où je me suis posé des questions, je me suis... on est vraiment allé du début. Tu sais, quels sont mes principaux intérêts, c'est quoi mes aptitudes, c'est quoi mes valeurs, de quoi j'ai besoin dans une carrière. Puis, à ce moment-là, ben, je me disais, oui, je veux rester en relation d'aide, mais d'une autre manière. Tu sais, j'avais pas envie de rester toujours dans la mésadaptation puis dans la pathologie. Je savais que ça s'en allait vers un burn-out, là, clairement.
Ouais.
Et puis, c'est à ce moment-là que j'ai découvert et choisi le développement de carrière. Et ben, depuis 2015, j'œuvre dans ce domaine-là, mais je porte quand même tout plein de chapeaux différents à travers le temps, puis même aujourd'hui. Où j'ai
on est multipotentiel ou on ne l'est pas, on a besoin de simuler ou non, là.
Ben, c'est ça, exactement. Fait que je fais pas mal de trucs en même temps. Donc, quand on me demande « qu'est-ce que tu fais dans la vie? » Genre, t'as-tu 15-20 minutes?
Je suis un couteau de Suisse.
T'as-tu 15-20 minutes pour qu'on s'en jase, tu sais, que j'essaie de pas te perdre là-dedans?
Mais à quel point c'est genre méta ton affaire, t'es genre orientation-ception, là, j'adore ça, là!
Mais souvent, c'est ça qui arrive, hein. Tu sais, on rencontre des CO, puis là, je me disais, avec celle-là particulièrement, il me semble que j'aimerais ça être de son bord de la chaise. Tu sais, j'aime ça, qu'est-ce qu'elle fait avec moi, son approche, sa manière d'intervenir, le milieu. Bref, tu sais, puis j'étais comme, tu sais, il y a comme quelque chose d'intéressant là-dedans, puis... Bon, il y avait l'attrait aussi que, tu sais, quand on est en développement de carrière, on n'a pas besoin d'un doctorat pour pratiquer. On peut faire un bac et être conseiller en emploi.
C'est non négligeable comme avantage, quand même.
C'est quand même non négligeable quand ça fait plusieurs réorientations que tu fais. Fait qu'effectivement, j'ai trouvé ça bien intéressant de me dire, au pire, j'arrête au bac, tu sais, mais je pense que je me connaissais peut-être pas à ce point-là pour me dire que j'allais arrêter au bac, si on s'entend. Alors, ben, j'ai poursuivi à la maîtrise, naturellement. Puis là, ben, j'ai encore d'autres idées de formation continue qui pointent leur nez de temps en temps.
Oh, mais regarde, es-tu une éternelle étudiante, là? That's life.
Ben, ça risque d'être ça pour moi. Là, j'ai décidé que j'allais prendre une pause pendant un temps, mais bon.
Ouais, mais tu vas voir, ça va commencer à te manquer à un moment donné. Tu vas juste faire comme ça, que j'aimerais ça te stimuler intellectuellement.
Une autre façon aussi de faire, c'est d'avoir un enfant. Après ça, t'as plus vraiment tant de choix pour les études supplémentaires.
Ouais, c'est ça, mais c'est à réfléchir quand même, hein, tu sais, donc...
Oui, tu peux pas le dire mieux où cet enfant-là après, là, quand t'as besoin d'une pause.
Non, c'est ça, il retombe plus par où il est rentré. Mais...
Wow! Ah, ça, je le garde, hein, je le garde dans, hey, dans ma, voilà, ma poche de réplique.
Il y a beaucoup d'images qui viennent avec tes propos, Mélissa, c'est compliqué à gérer.
À moins que t'es Benjamin Button, là. Mais...
OK, revenons à nos moutons d'orientation. Fait que tout ce fameux parcours, quand même assez impressionnant, moi j'adore t'entendre, mais sérieux, t'as écrit un livre. Moi je m'excuse, là, mais comme dans mon top de « j'ai réussi ma vie », il y a « j'ai écrit un livre »,
OK? J'avoue que moi avec, ça coche haut dans mon...
Ouais.
Oh wow, c'est vraiment fin les filles, mais honnêtement... Puis le pire là-dedans, c'est que je m'étais toujours dit, j'aimerais ça écrire un livre un jour, mais je savais pas quoi. Puis tu sais, honnêtement, c'était une opportunité qu'on m'a offerte, que j'ai pris, puis je savais zéro dans quoi je m'embarquais, pour être vraiment honnête. Mais merci à Septembre Éditeur, honnêtement, de m'avoir, tu sais, encadré, d'avoir répondu à mes questions. Lucie Demers, Annick Dessel, merci. T'sais, pour vrai, je les nomme parce que c'est super important, mais elles ont vraiment comme été encadrantes pour moi. J'ai envoyé je ne sais pas combien de courriels, honnêtement, en l'espace de 10 mois. J'ai adoré...
10 mois pour écrire un livre.
En fait, c'est même pas 10 mois dans mon cas, mais ça dépend de chaque personne. Hein, mais de mon côté, ben, je peux peut-être continuer avec mon parcours en lien avec le livre, du moins.
Excuse-moi.
Mais, ben non, c'est bien correct.
On force des divergences, tu sais.
Ben, c'est bien correct. En fait, ça m'aide à me recentrer, puis c'est bien important dans la pratique. Sinon, ben, tu sais, ça sert à quoi un processus d'orientation si ça s'en va nulle part? Hein? Alors... Trademark. Alors, ouais, donc j'en étais à... quand j'ai commencé ma maîtrise, en fait, on a toutes et tous un projet de recherche à faire. Et puis, moi, je me disais, ben là, qu'est-ce que je fais? Tu sais, j'avais pas nécessairement envie de me rendre la tâche facile puis de choisir un sujet qui est super documenté, mais j'avais pas non plus envie de me rendre la tâche trop difficile parce que je me doutais bien que j'allais finir par faire des cours en intervention et pas nécessairement compléter un mémoire. Mais bon, ça a l'air que le cœur l'a emporté. Puis, moi, ça faisait longtemps que j'avais un petit contact avec la douance.
Mm-hmm.
De temps à autre, ça revenait souvent dans ma vie. Et puis, à ce moment-là, en 2018, je me suis dit, pourquoi pas, tu sais, commencer à faire des recherches puis voir un peu qu'est-ce qui se passe en orientation pour les personnes douées.
C'est juste de même.
Et puis, moi, j'avais très envie de faire ça sur la population adulte, mm-hmm. plutôt que les enfants mm-hmm. et les adolescents. J'ai eu plus un contact avec les adultes aussi dans ma pratique, tu sais, comme conseillère en emploi puis en développement de carrière, parce que je travaille au communautaire puis c'est une clientèle qui est adulte. Donc, à ce moment-là, j'ai commencé à faire ces recherches-là et tout. J'ai pris ma décision de faire ce projet de recherche-là sur les adultes doués. Puis, je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien pantoute.
Parce qu'on l'a dit à plusieurs reprises, Sabrina, dans les épisodes, à partir de 18 ans, plus de neurodivergence.
Non.
C'est terminé.
Oui, exactement.
En 2013, tu peux garder ton TDAH maintenant.
OK, celui-là, t'as le droit. Mais...
Ouais, l'autisme aussi, quand même, le trouble du spectre autistique, il y a quand même eu un livre qui a été écrit par Émilie Robert, qui est conseillère d'orientation, dont le titre m'échappe. Les personnes autistes et le choix professionnel, bref, de peut-être mettre le lien. C'est très intéressant. Puis ça parle pas seulement des enfants et des ados, ça parle aussi des
adultes. Je trouve très bonne, c'est vraiment ça, les personnes autistes et le choix professionnel. Deux points, les défis de l'intervention en orientation.
Wow, incroyable. Merci!
Mais le mettre. Puis de toute façon, je tiens à préciser que je niaisais parce qu'effectivement, il existe des ressources, mais que depuis trop longtemps... Il y avait comme une perte de service et de référence pour les personnes neurodivergentes adultes.
Oui, je suis d'accord avec toi, Fran. Puis effectivement, dans le fond, en douance, surtout, honnêtement, en 2018, il n'y avait pratiquement rien. Alors, j'ai basé mon projet de recherche sur comme une ou deux études qui se sont faites en Autriche, puis en Europe, certaines aux États-Unis, mais il a fallu que je tricote à travers plusieurs sujets qui n'étaient pas liés ensemble dans les études. Bref, ça a été énormément de travail de faire ce projet-là. Et on m'a offert, via mon association professionnelle, donc l'AQPDDC, qui est l'Association québécoise des professionnels en développement de carrière, on m'a offert de faire un atelier d'une heure pour expliquer un peu mon projet de recherche, le vulgariser aux professionnels du domaine. Puis, à ce moment-là, j'ai fait une annonce sur LinkedIn et j'ai dit, voici, je fais ça en janvier 2021 et tout ça. Et finalement, j'ai un courriel de Septembre Éditeur qui me sollicite et me dit, on cherche quelqu'un depuis un bout de temps qui a un contact avec la douance pour un projet de livre. Est-ce que tu veux nous rencontrer? Et là, j'étais comme, hein? Pour vrai? Tu sais, j'étais complètement bouche bée, là, pour vrai. C'est ça. Alors, j'étais super étonnée, j'étais surprise, j'étais comme, oh mon Dieu, mais tout d'un coup, que c'est vraiment mauvais ce que j'ai fait comme projet de recherche.
À peine le syndrome d'imposteur, à peine.
À peine, non, c'est ça. Ça va me suivre probablement toute ma vie. J'y travaille, mais quand même. Et puis, c'est ça. Donc, j'ai rencontré les directrices éditoriales en novembre 2020. Puis, honnêtement, j'ai pas réfléchi, je pense, deux jours que j'ai embarqué dans le projet, mais j'avais absolument rien du tout, tu sais, à part mon projet de recherche puis ce que j'ai appris dans les études puis les liens que j'ai faits. Fait que je dirais que, tu sais, entre décembre et janvier, j'ai rédigé un plan, puis de janvier à juin, j'ai rédigé le livre. c'était beaucoup de travail. Tu sais, pour celles qui pensent à écrire un livre là, parmi les auditeurs, faire ça en 5 mois, là, c'est déconseillé, je vous le dis. Là, c'est vraiment beaucoup de travail.
Ce n'est pas 5 étoiles sur Google.
Non, c'est 7 jours par semaine de travail, surtout quand en plus on a d'autres mandats professionnels. Là. Honnêtement, donnez-vous plus de temps si vous pouvez vous le permettre. Faites-le.
On aime ça, conseil de vie. Prenez-le. Ça vient d'une conseillère d'orientation en plus, regarde. Hein? Faut pas être plus expert que ça, là.
Ah, d'habitude, les conseillers d'orientation, on ne conseille pas des choses aux clients. C'est ça, en plus, la beauté et toute l'ironie de notre titre, là. Mais bref, ça peut être un conseil en tant qu'auteur que je vais donner aux auditeurs et aux auditrices, là. Ouais. Attention à la santé mentale et à l'épuisement quand on rédige un livre, là. Ouais.
C'est bon à savoir.
Mais justement, ce livre-là, là, il est en train d'être accouché, puis justement, ça fait partie de notre boutique là, en ce moment qu'on lance pour essayer de financer nos transcriptions.
Tu dévoiles un peu un punch, me semble, Mélissa, en ce moment? Non, mais on aime ça, genre dévoilement, tada!
Mais c'est parce que là, ouais, on dirait que je le disais, mais ouais, attends, c'est parce que, c'est quoi que je voulais dire? Peut-être que j'ai oublié. Oui.
Tu disais, Mélissa, que on parlait du livre qui était difficile à rédiger parce que. Puis là, ensuite, tu as dit oui, puis justement, dans notre ouais. tentative de financer nos transcriptions, en tout cas, bref.
Je sais pas.
Non. Hey, okay, je tiens à dire, là, Sabrina, ça fait 2 discussions que j'ai avec toi dans la vie, là, puis t'es excellente à ramener, OK? Comme oui. C'est un super pouvoir.
C'est un travail de longue haleine, je vous dirais. Ça s'appelle la directionnalité de l'intervention. Et là, je connais quelqu'un qui s'appelle Réginald Savard qui serait très, très, très content de m'entendre en ce moment. Bonjour, Réginald. Mais c'est ça, la directionnalité, ça, c'est super important parce que justement, on veut que le processus avance. Fait que des fois, il faut résumer pour ramener un peu.
Oh, ouais. Je te trouve vraiment très, très bonne. On va t'embaucher.
Embauchez-moi. Je vais vous ramener tout le temps.
Regarde! Hey, d'ailleurs, j'allais dire une corde de plus à ton arc. Là. On peut tous entendre que c'est la pire expression du monde parce qu'il y a juste une corde sur un Christ d'arc puis que c'est des flèches dans ton carquois qu'on devrait ajouter.
Tu pourrais parler d'un brin ou d'un crin à ton archet parce qu'il y en a plusieurs.
Ouais. Ça, mais j'aime plus.
En tout cas, mitraillette à flèche.
Mitraillette à flèche!
En plus de ça, si je joue à un jeu vidéo où mon arme principale est un arc, et là j'imagine juste la catastrophe si on devait me confier plusieurs flèches avec une mitraillette à flèches. Incroyable. Ok, revenons. On en était où? J'ai perdu le fil.
Donc j'en étais à conseiller aux gens de ne pas rédiger un livre en 5 mois parce que oui. C'est très 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 ardu. À moins que ce soit un livre, tu sais, léger là, avec peu de mots, mais je vous dirais que de mon côté, c'est autour de 52 000 mots. C'est vraiment, vraiment...
Ouais.
C'est difficile en 5 mois de rédiger ça. C'est alors, la prochaine fois, s'il y en a une, et j'espère qu'il y en aura une, je lance ça comme ça, mais je vais m'arranger pour négocier que ça ce soit plus long le temps de rédaction.
Voilà. Ça semble raisonnable comme compromis. Donc, ce fameux livre-là, parce qu'on en parle, mais on n'a jamais nommé son titre jusqu'à maintenant. Notre auditoire ne se peut plus de ce suspense.
Oui!
Parle-nous-en.
Ben oui, donc, le titre entier est « Douance et carrière ». Donc, comprendre l'adulte doué pour mieux l'accompagner.
C'est beau.
On peut réduire ça à douance et carrière. On voulait que ce soit accrocheur quand même, puis qu'on le retienne bien. Donc,
DNC.
Douance, carrière, tu sais, douance, carrière. Alors voilà. Dans le fond, c'est un livre qui s'adresse particulièrement aux professionnels du développement de carrière, mais tu sais, at large, là, c'est-à-dire conseiller en emploi, développement de carrière, conseiller d'orientation, aussi conseiller en ressources humaines. Donc, clairement, parce que c'est tous les professionnels qui, finalement, ont à intervenir ou à être en relation avec des personnes douées dans des milieux de travail ou dans des milieux académiques d'études.
C'est ça, parce qu'on s'entend que, en tant que personne en ressources humaines, on est souvent le pendant du conseiller en développement de carrière en entreprise avec les plans de développement, puis voir comment est-ce que la personne va évoluer dans l'organisation.
Oui, absolument. Puis je crois qu'il y aurait quand même vraiment un bénéfice incroyable de davantage collaborer avec les personnes des ressources humaines dans les organisations en tant que conseiller en développement de carrière, que ce soit dans les organisations elles-mêmes ou, par exemple, de mon côté, au communautaire, tout comme en pratique privée. Tu sais, je pense qu'il y a quelque chose comme du partenariat, de l'arrimage à faire là, avec les organisations.
Comme ça me fait penser, par exemple, Mathieu Guénette, qui est un des très bons exemples de traverser des deux côtés de la chaise là, en RH puis en... Avec son livre de candidat viscéral que j'avais trouvé vraiment excellent.
Oui, je le salue d'ailleurs. Bonjour Mathieu.
Allô Mathieu, alors, moi je ne le connais pas encore, mais je te salue aussi.
Ben, CEO incroyable, honnêtement, vraiment. Alors, j'ai encore dans ma liste de livres à lire son livre sur... Ah, mon doux, j'ai encore oublié le titre.
Vu que j'allais chercher, écoute, je suis une excellente recherchiste.
Trouver sa place au travail. Trouver sa place au travail quand on se sent un peu extraterrestre.
Oui,
alors, guide pour ceux qui n'aiment pas les guides.
Avec deuxième lien à mettre.
Oui, absolument. J'ai très, très hâte de le lire. Et préface par Jean-Thomas Jobin. Oui, c'est ça. Alors, j'ai vraiment hâte de le lire, mais c'est ça. Je le salue.
Juste de penser, si Fran était un homme et humoriste, je pense qu'elle serait Jean-Thomas Jobin.
Peut-être, oui. En tout cas, je l'ai vu, moi, ben oui, parce que j'ai bien regardé Big Brother. Oui, j'ai regardé Big Brother parce que Rita Baga est une très, très bonne connaissance de mon conjoint. Alors, c'est ça, mais Jean-Thomas Jobin, quelle incroyable personne.
Mm-hmm. On
quel
le salue.
Quel pouvoir.
Parce que lui aussi, il nous écoute, tu sais.
Quelle personne incroyable. Et j'ai surtout apprécié le voir fonctionner ou ne pas fonctionner dans une épreuve où il devait utiliser sa coordination sur un genre de machine où il devait tirer des cordes. Puis ça allait vraiment pas, le pauvre. Puis là, il était comme, mais mon cerveau fonctionne pas comme ça. Puis j'ai senti vraiment une grande empathie, là.
J'adore.
Et le pire, c'est qu'il l'a refait après, puis ça s'est super bien passé. Fait que ça... Il a intégré tout ça vraiment rapidement. Bravo. Bref. Bravo, d'ailleurs, il a gagné Big Brother. Là. Fait que,
en plus. Voilà.
Ben oui. Donc, j'en étais où avec tout ça? Ah oui, ben, en fait, c'est ça, je disais que ben ce livre, en fait, s'adresse surtout aux professionnels de la carrière, mais aussi au grand public qui est intéressé par la douance, à en savoir plus sur, ben, c'est quoi la douance, ça mange quoi en hiver, tu sais, des personnes douées. Donc, en gros, ben, en première partie, j'explique un peu, ben, tu sais, quelles sont les conceptions actuelles de la douance, parce qu'on le sait, il n'y a pas de consensus encore sur la définition claire de c'est quoi la douance. Après ça, ben, je parle un peu des caractéristiques des adultes doués principales. On s'entend que c'est autant de personnes douées que de douances, ou vice-versa. Mais quand même, il peut y avoir des caractéristiques qui vont se retrouver souvent chez les personnes douées. Donc, à travers les études, à travers des témoignages que j'ai reçus aussi, puis les observations cliniques, on a pu en venir à certaines caractéristiques particulières. Puis, en autre partie, il y a les enjeux de carrière des personnes douées. Donc, il y a aussi des enjeux qui sont plus fréquents, on va dire, qui vont peser plus lourd dans la balance. Puis, finalement, ben, l'intervention auprès de ces personnes-là en développement de carrière. Donc, les grandes approches qui pourraient être pertinentes, puis des outils d'intervention aussi, là, à la fin.
Mais dans les clientèles que tu as établies qui pourraient être intéressées par le livre, mettons quelqu'un qui pense peut-être qu'il est doué, qui ne sait pas, qui se cherche, pourrait lire ça.
Absolument.
Quelqu'un qui sait qu'il est doué puis qui ne comprend pas comment se placer dans sa carrière pourrait aussi être intéressé.
Absolument.
Fait que c'est bon pour tout le monde.
C'est bon pour tout le monde. Moi, de toute façon, même d'un point de vue inclusif, là, juste de mieux se comprendre de même, c'est bon pour toute personne, peu importe où elle s'illustre sur la neurodiversité, tant qu'à moi.
Oui, ben c'est ça, c'est mon avis aussi. Tu sais, que je pense que toute personne intéressée par le sujet ou qui se sent touchée personnellement ou professionnellement par le concept, par les personnes douées. Et Twice, d'ailleurs, doublement exceptionnel et même triplement exceptionnel. Donc, on ajoute une composante culturelle ou d'identité de genre, etc.
Puis, on vous réfère à l'épisode sur l'intersectionnalité il y a quelques semaines.
De Mathé-Emmanuel Déniaux. Qui s'avère être mon conjoint dans la vie. Alors, bon, il n'y a pas de surprise. Hein? Voilà. Alors, donc, c'est ça vraiment. Puis là, je ne sais plus trop où j'en étais avec tout ça. Donc, on voit que...
J'allais quand même te dire quelque chose. Je trouve ça quand même très cool, tout le travail que tu as fait au niveau d'aller chercher les témoignages, parce que quand j'ai rédigé mon mémoire, c'était une des choses qui ressortait le plus, c'est à quel point on ne sollicitait pas l'avis des personnes neurodivergentes. Mmh. Tu sais, on parlait beaucoup de l'avis des gestionnaires de personnes neurodivergentes, des collègues de personnes neurodivergentes, sur comment les personnes neurodivergentes étaient ou pas incluses, sans leur demander à... elles-mêmes leur avis. Puis je trouve ça génial parce que je suis sûre que dans les témoignages, on pourrait faire, tu sais, dans les méthodologies, on aurait vraiment pu faire une analyse qualitative du discours pour aller chercher des grands thèmes qui ressortent, des symboliques dans le discours, puis ça aurait été super intéressant. Tu vois, c'est sûr que je retourne à l'école. Ouais, c'est ça que ça serait ma conclusion.
Puis ça arrive aussi avec ce que Amandine Catala puis Mylène Legault parlaient dans leurs épisodes aussi. Puis là, j'oublie les termes, mais c'était...
Au niveau de l'injustice épistémique.
Ouais, mais chercher comme si au niveau testimonial des personnes, oui. le fait que justement on devrait y participer, puis aussi avec tout ce que le mouvement neurodiversité dit et fait, surtout avec les personnes autistes, avec le « nothing about me without me », rien... sur moi, sans moi, je pense que ça aussi, c'en est un bon exemple. Fait que d'avoir le bon recoupement entre témoignages, personnes touchées, impliquées, et aussi études scientifiques, puis d'aller merger les deux ensemble, c'est...
Ouais. Je wrap cette parenthèse en disant, on n'a jamais fait autant de liens entre nos épisodes qu'aujourd'hui, c'est impressionnant. Puis deuxièmement, Sabrina, revenant à toi, juste vraiment props pour avoir autant sollicité le vécu des gens, parce que je trouve que c'est la base. Puis ça donne toute la valeur à ton livre, à mon avis, même si je ne l'ai pas encore lu, mais que je sais que je vais apprécier.
Merci. Puis c'est ça la beauté, en fait, aussi, d'être CEO. C'est que on va, tu sais, puis là, loin de moi, tu sais, l'idée de juger un peu la formation ou la vision des personnes qui sont en RH, mais c'est que du côté de l'orientation et du développement de carrière, on met le vécu subjectif de la personne avant toute chose, tout le temps. Parce qu'on travaille avec et pour l'individu, tu sais. Alors, c'est sûr que c'est important quand même d'avoir un bon feedback, tu sais, de comment la personne fonctionne en emploi, d'avoir un bon feedback de la part de son système, tu sais, des gens qui l'entourent. C'est super aidant aussi pour mieux comprendre sa situation, mais on commence quand même avec l'expérience subjective de la personne. Puis je pense que c'est ça qui est super complémentaire aussi avec les ressources humaines puis l'inclusion au travail, tu sais. Il y a vraiment quelque chose là qui peut être très gagnant de voir, de partager nos points de vue qui sont complémentaires puis qui vont aider à la neuro-inclusion au travail puis aux études aussi, tu sais. On parle de milieu de travail, mais les études aussi, là, il y a du travail d'inclusion à faire encore.
Sabrina, ta voix chante dans mes oreilles, tes mots dansent devant mes yeux, c'est incroyable, c'est ça, l'inclusion, c'est la base.
Oui, ouais, c'est ça.
Comment l'expliquer outre ça, c'est les mots les plus évocateurs que tu peux pas avoir.
Ah, ben super, ben, je suis contente que ce soit évocateur de ce qu'on pense tout ici, là, honnêtement. C'est une belle connexion, puis bon, je sais plus où j'en étais après ça, on a encore divergé, mais bref, tu sais... Fait que finalement, ça s'adresse à tout le monde. Toutefois, tu sais, je voudrais quand même faire un disclaimer que... j'ai pas le mot en français pour disclaimer. Alors, que quand même, j'ai adressé mon texte dans le livre aux personnes professionnelles du développement de carrière. Mm-hmm. Donc, je parle au vous en parlant aux professionnels du développement de carrière. Donc, ça peut faire en sorte que certaines personnes se sentent peut-être moins visées, mais sachez que je l'ai écrit avec amour pour... toute personne qui souhaite s'intéresser au sujet puis se sensibiliser puis approfondir ses connaissances de la douance des personnes douées, parce que c'est une condition quand même qui mérite, tu sais, d'être considérée, parce qu'il y a des enjeux liés à la douance. Ce n'est pas qu'un privilège, ce n'est pas que des personnes qui excellent dans tout et qui sont des génies supérieurs au reste de la population, là. C'est un mythe.
Merci de déboulonner le mythe, Sabrina. Mais oui, puis tu sais, on en a parlé dans d'autres épisodes, mais le sentiment de décalage, le sentiment de justement de traduction, des fois qu'il faut avoir à faire, les hypersensibilités, toute la quête de sens profonde et de justice qui peut venir semer un peu la zizanie dans ton développement de carrière. Donc, c'est vraiment des enjeux qui sont à nommer. Et on le sait, des fois, ça semble être... Tu sais, même au sein même de la neurodiversité, des fois, ça va être déclamé de dire « Ouais, mais là, t'es en train de te plaindre d'un privilège ou de te plaindre d'un profil qui te donne des facilités. » Oui, puis non. On s'entend, c'est comme dans tout, là. C'est à partir du moment où on a un environnement inclusif ou un environnement accueillant, à la limite, dans notre profil unique, ben on va avoir des forces qui vont ressortir. Puis ça, ça n'a pas rapport avec le profil de la neurodivergence. Ça va être pour tout être humain, en fait. Mm-hmm. Bref, j'ai envie de me perdre dans mes propres idées, fait que arrêtez-moi puis reprenez.
Mais j'aimerais ça savoir maintenant, tu sais, ton livre, t'as fait beaucoup de prises de témoignages, parce qu'à ce moment-là, comme tu disais, au niveau de la littérature que t'avais eu accès à utiliser pour ton mémoire, tu sais, c'était relativement restreint. Pendant que t'écrivais ton livre, il y a un excellent livre aussi qui est sorti sur la douance, que c'est comme un timing, qui aurait été fun qu'il sorte avant, j'imagine, mais bon, bref. Est-ce que tu peux me parler un peu des constats que tu as fait, des surprises que tu as eues peut-être?
Oh, wow! Oui! Hey, c'est quelle excellente question!
Oui, bravo!
Ouverte, que je vais essayer de rassembler mes pensées.
C'est une grande coach qui ressort.
Ben oui, écoute, merveilleux! J'adore ça, j'aurais pas pu faire mieux. En fait, est-ce qu'il y a eu beaucoup de constats? En fait, c'est drôle à quel point j'ai été surprise de ne pas être surprise de ce que j'ai lu. C'est bizarre hein, à dire, mais
c'est vraiment, c'est méga significatif en soi, en fait.
Oui, ben c'est ça. En réalité, c'est que, tu sais, j'avoue partager beaucoup d'enjeux et de caractéristiques avec les personnes douées, mm-hmm. bien que je n'ai pas de confirmation de douance. On fait qu'on va le dire, là, je n'ai pas de confirmation de douance. Mais tout de même, tu sais, je partage plusieurs enjeux, puis on m'a souvent reflété, justement, mais t'es donc bien intelligente, tu sais, t'es donc bien bolée, tu sais, t'es une machine, hein, on dit...
T'écris un livre en 5 mois.
Ben c'est ça, on m'a souvent dit, tu sais, t'es vraiment une machine, tu produis, tu sais, le nombre de fois qu'on m'a dit ça, puis ça résonne, puis pas vraiment, tu sais, dans le sens où c'est dû à plein d'affaires, dont l'anxiété. L'anxiété me fait produire énormément.
C'est un carburant incroyable.
C'est ça. Mais tu sais, c'est que tous ces enjeux-là qui sont en réalité, tu sais, beaucoup des dualités, puis c'est beaucoup des nuances, en fait, là, dans le vécu des personnes. Ben c'est ça, je me suis rendu compte qu'il y a des choses que j'ai lues, tu sais, dans les principaux vécus et tout ça, puis dans ce que j'ai entendu dans les témoignages aussi, puis avec Mélanie Chevrier, qui est justement la principale contributrice du contenu du livre également. Pour toute sa connaissance, puis le fait qu'elle coach professionnellement des personnes douées TWICE, ben c'est ça, tu sais, j'ai pas été particulièrement surprise de ce que j'ai vu. Tout ce qui est en jeu de décalage, de sentiment d'être différent, de pas tout à fait connecté avec ses pairs, tu sais. Puis aussi, tout l'aspect de la créativité qui est ressorti énormément. Ça, j'avoue que j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'on pourrait penser au départ que la douance, c'est vraiment intellectuel, froid, cartésien, c'est que c'est vraiment là, dans le logico-mathématique. En réalité, il y a vraiment une grosse partie de créativité là-dedans. Puis quand j'ai découvert le modèle de Renzulli, mm-hmm. dont vous avez déjà parlé dans d'autres épisodes, ben ça m'a vraiment parlé, finalement. J'ai senti une connexion avec le concept, vraiment comme si je le connaissais déjà depuis 10 ans, mm-hmm. puis que c'était mon bon body, là, tu sais. Ça a l'air fou, mais c'est ça.
Renzulli et Sabrina, de même. Là, je croise les doigts pour les gens qui ne voient pas.
Ouais, ou du moins, tu sais, ou du moins son concept et moi, tu sais.
Mais je te laisse finir ta réponse, puis après, j'ai une question pour toi. Je ne veux pas t'interrompre.
Ah, mais ma réponse était terminée, ma chère.
OK, merveilleux. J'avais juste peur d'encore te faire diverger, mais j'avais le goût de te demander comment tu as réussi à circonscrire ton carré de sable des concepts. Parce que moi, ce qui m'avait frappé en douance, c'était le non-consensus et le fait que personne ne s'entend sur une définition. Puis là, je sais qu'à un moment donné, il faut trancher puis dire, OK, voici lequel sera mon cadre théorique. Comment s'est passée ta démarche pour ça?
Oui, Ben ça, c'est la beauté d'avoir fait un projet de recherche avant. Ça prenait un cadre conceptuel qui était assez rigoureux, tu sais. Oui. Alors, clairement, ça m'a beaucoup aidé à un peu circonscrire ma vision. Quoique, je suis toujours ouverte à tout ce qui va ressortir dans les prochaines années, mais quand même. Puis à ce que peut-être je produirai moi-même. Mais c'est ça. Puis en gros, c'est que, ben il y a quand même des modèles conceptuels de la douance qui sont plus validés et utilisés que d'autres. Fait que, tu sais, à travers, ben justement, avoir regardé tous les modèles qui existaient, ben c'est sûr qu'à un moment donné, je devais en choisir, hein? Ce qui n'est pas facile, mais tout de même. Puis c'est certain qu'on reste quand même avec l'approche psychométrique, là, tu sais, de la mesure de l'intelligence, là, parce que, clairement, c'est ce qui est le plus... Tu sais, c'est ce qui est vraiment bien balisé, puis au niveau scientifique, empirique, ben c'est ça qui fonctionne. Parce qu'on peut pas, on peut pas d'un point de vue scientifique, dire « Ah, ben tu sais, c'est genre un petit peu de créativité, puis ben de l'engagement. »
À l'œil, là.
Tu sais, à l'œil ou à peu près. Tu sais, moi, je comparerais, mettons, la clinique à la cuisine en tant que telle, puis l'académique à la pâtisserie. Tu sais, la pâtisserie, là.
C'est une science.
Si tu mets pas... C'est, ouais, c'est si pas tu des mets pas le bon...
De... Tu feras pas un tout-ski de Paris-Brest, là.
Ben, non, c'est non. Ça, tu sais. Hein, si tu mets pas la bonne quantité de farine, là, t'es dans la... Bah, on va dire. Et puis, c'est ça. Fait que ton muffin, il est dur comme une roche. Tu sais, c'est un peu ça, finalement. Je compare ces deux-là. Alors que la cuisine, ben, tu peux comme improviser, rajouter des épices, rajouter des affaires, puis ça va donner quelque chose que, tu découvres. Puis les deux vont ensemble, selon moi, tu sais. Mais ça reste que, ben, on reste avec l'approche psychométrique tout en considérant des traits, tu sais, en lien avec, par exemple, le modèle de Renzulli dont on a parlé déjà dans d'autres épisodes. Mais il y a aussi un modèle dont on parle beaucoup moins, qui était assez intéressant pour expliquer les différentes aptitudes, puis qui peut expliquer aussi les différents styles de douance. Et c'est la théorie triarchique de Sternberg, Robert Sternberg, qui est un chercheur américain. Puis cette théorie-là, finalement, c'est que dans les habiletés de haut niveau que les personnes douées possèdent, ben il y a trois types. Tu sais, il y a les habiletés analytiques, qui est plus dans vraiment, tu sais, analyser ses idées, bon, tout ce qui est plus aptitude de traitement de l'information, puis de tu sais, de se construire, en fait, des concepts basés sur des données, là, tu sais, basés sur des faits. Il y a tout ce qui est habileté créative, hein, fait que de faire des liens, de sortir des sentiers battus, de créer de l'originalité, tu sais, de vraiment innover. Puis les habiletés pratiques, dont on parle peut-être un peu moins. Mm-hmm. Les habiletés pratiques, là, c'est à la fois le fait de, ben, d'être en mesure de vraiment concrétiser ses idées dans la réalité. Hein, c'est ce qu'on fait avec l'environnement qui nous est offert autour de nous. Puis aussi la capacité à persuader son entourage de la valeur de ses idées. Parce que sans ça, c'est plus difficile de vraiment manifester sa douance puis de créer des projets qui sont porteurs de sens pour les autres.
Ça m'amène des questions pour toi. Parce que, excuse, j'ai beaucoup trop de choses dans ma tête en même temps. Est-ce que ça t'a permis aussi d'aller rebaliser, tu sais, moi, quand je me remémore les modèles, il y avait aussi toute la différenciation des concepts de talent, potentiel, douance. Là, on pense entre autres au modèle de Gagné, mais même dans le modèle de Sternberg, au niveau des habiletés pratiques, est-ce qu'il y a cette nuance du potentiel versus du talent acquis versus de l'habileté naturelle qu'on peut voir dans d'autres modèles, ou c'était moins ça? Parce que c'est moins un modèle que j'ai exploré en Sternberg, fait que c'est pour ça que je pose la question.
Oui, ben c'est moins ça, je dirais, dans le cas c'est de Sternberg. Hein? Ben je pense qu'il y a quand même, parce qu'il y a, à partir de cette théorie-là, il en a construit d'autres, puis il a évolué, tu sais, son concept. Puis il y a beaucoup une partie, là, de Sternberg, là, récemment, il parle beaucoup de la nouvelle génération, puis il parle aussi de wisdom, de sagesse, tu sais, de savoir un peu, là, comment utiliser son potentiel pour que ça se manifeste.
C'est ça.
Il y a quelque chose là-dedans, mais tu sais, j'ai pas assez lu pour pouvoir l'expliquer bien correctement, puis surtout en résumé. Mais bref, un petit peu moins quand même, alors que le modèle, par exemple, de Gagné dont on parle, ben oui, il différencie la douance du talent, la douance comme étant un peu le diamant brut qui est toujours présent, mais qui n'est pas nécessairement...
Actualisé, manifesté.
Oui. Et le oui. talent qui va être quelque chose de manifeste.
Mm-hmm.
Bon, puis c'est assez développemental, mais je dirais que tous ces modèles-là sont développementaux, là, finalement. C'est que la douance, elle peut être présente, mais elle se développe aussi avec l'environnement puis les conditions dans lesquelles la personne va évoluer là, dans la vie à travers le temps.
Exact, je trouve ça important d'en parler parce qu'on a souvent cette idée de la douance comme le talent manifeste et ces génies qu'on va voir dans toutes sortes de catégories, là, qu'on parle au niveau artistique, au niveau sportif, au niveau littéraire, peu importe, académique, mais avoir un talent manifeste, avoir maîtrisé une habileté avec le temps et la pratique n'est pas synonyme de douance et vice-versa. Donc, je trouve ça important parce que, surtout dans le monde du travail, qui est quand même une de nos cibles avec le podcast, il y a cette notion d'évaluer les gens sur leur performance manifeste au lieu du potentiel qui n'est pas nécessairement connu parce que l'environnement ne permet pas à ce dit potentiel d'être visible pour toute personne.
Absolument. Puis avec Mélanie, justement, on en avait beaucoup discuté de cette fameuse différence entre la performance et le potentiel. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert à travers ma conversation avec Mélanie, que j'ai redécouvert plutôt, parce que c'est quelque chose qui est quand même qui est implicite là, partout oui. où on va. Mais de le nommer comme ça, puis de se dire, ben oui, il y a une réelle différence entre ce qu'une personne a vraiment à l'intérieur d'elle-même comme mm-hmm. force, comme capacité, puis ce qu'elle va manifester, clairement. Parce que oui. ça dépend vraiment de, ben dans quel environnement elle va être placée, cette personne-là. Tu sais, c'est quoi les catalyseurs qui font en sorte que tel ou tel intérêt va être engagé, ou que telle aptitude va vraiment être permise d'être sollicitée? C'est comme, par exemple, une personne multipotentielle que ses parents veulent absolument qu'il fasse des hautes études, ben ça se peut qu'il soit un super médecin ou avocat, mais il aurait pu aussi être un excellent artiste ou être un excellent... une personne dans le milieu de la construction qui performe hyper bien dans son travail, là. Mais il y a une partie de son environnement qui a fait en sorte qu'il s'est dirigé vers des hautes études, par exemple.
C'est ça. Parce qu'on est quand même toujours tributaire de notre environnement, de comment on est élevé, de certains stéréotypes. Je pense aussi, notamment peut-être pour les personnes triplement exceptionnelles qui viennent d'une culture différente, des deuxièmes générations d'immigrants, où les parents accordent énormément d'importance aux études supérieures. Je ne sais pas si c'est plus que la moyenne, mais bref, je sais qu'il y a souvent cet espoir-là pour l'enfant de devenir un médecin, un avocat, etc.
Oui, puis ça, c'est toutes ces perspectives de la complexité. On ne peut jamais prendre un concept de manière isolée. Tu sais, là, tu parles, par exemple, de cet exemple assez, on va dire, stéréotypé de la famille migrante qui espère un meilleur avenir pour ses enfants. Non, mais je le trouve important parce que c'est vrai qu'on vient comme ajouter une couche, puis j'ai le goût aussi d'ajouter d'autres couches à ça. Puis tu me diras ce que tu en penses, Sabrina. Tu sais, il y a aussi toute cette notion des underachievers, donc les sous-accomplis, en français.
C'est de la sous-performance, en fait.
Sous-performance, merci. Mais ouais. Je trouve ça important parce que l'environnement ne te permet pas tout le temps d'avoir toi-même accès à ton propre potentiel, de le reconnaître. Tu te construis bien souvent identitairement autour d'un sentiment de décalage, d'un sentiment d'imposteur. Puis ce développement identitaire-là va contribuer à ta sous-performance éventuellement parce que tu ne reconnais pas toi-même ton propre potentiel ou tu n'as même pas le vocabulaire à mettre sur ton vécu parce que toi, c'est ton vécu puis tu te compares à ce que la société te permet de mettre des mots dessus. Et je reviens à l'importance des mots parce que pour moi, cette justice que les mots permettent, elle est essentielle.
Des mots, puis aussi les évaluations, tu sais, tranche de vie, je m'inclus là-dedans, mais la création du full self que j'avais avant d'avoir mon évaluation m'empêchait d'utiliser mon plein potentiel. Tu sais, moi, je me disais, ah, j'irais pas à l'université, je suis allée à l'université beaucoup plus tard dans la vie parce que, tu sais, bon, bref, je croyais pas au potentiel que j'avais à ce moment-là, même ta mère a beau te dire, t'es super intelligente, t'es ci, t'es ça, mais à un moment donné, tu sais, quand tu le sens pas ou que ouais. ça devient difficile à construire puis à comprendre, fait que je trouve ça autant plus important le livre que t'as écrit pour ces personnes-là aussi qui, je pense, justement, au niveau de la sous-performance, peut-être comprennent pas l'étendue des possibilités qui s'offrent à leur cerveau puis à leur besoin de se nourrir intellectuellement au courant de sa vie, là, dans sa carrière, dans ses hobbies, dans...
Oui, puis souvent, les enjeux tournent autour de de soit c'est trop, soit c'est pas assez. C'est-à-dire que, ben, tous ces enjeux-là, que ce soit le sentiment d'imposteur, le perfectionnisme malsain, le sentiment de décalage, les crises identitaires, ça amène à avoir des difficultés d'adaptation à son environnement et même à soi-même. Là, quand on se reconnaît pas, là, c'est difficile de fonctionner puis de vraiment réaliser le potentiel qu'on a.
Oui.
Puis ça nous amène à soit se suradapter, hein, donc c'est-à-dire de vraiment comme vouloir tellement se fondre dans le moule ou bien appartenir qu'on se perd complètement, ou bien à se sous-adapter, c'est-à-dire à s'isoler complètement du reste du monde, tu sais, puis de finalement, est-ce qu'on est vraiment mieux parce qu'on essaie d'éviter toute situation qui nous menacerait dans notre identité? Pas vraiment, là.
Mais Emily, en tête, c'est l'analogie parfaite. Je pense que c'est vraiment l'idée du diapason, d'être au diapason dans tout ça, tu sais, que la vibration interne avec... Là, j'ai l'air ésotérique dans mon affaire, mais ça veut vraiment pas comme ça, mais avoir... Je pense que c'est ça, tu sais, de trouver son chemin, de trouver qui on est, puis de les faire vibrer à la même intensité, c'est ça qui va faire qu'on va avoir plus de chances d'avoir des manifestations de la douance que ce qu'on est doué. Mais pour tout le monde, de toute façon, mais...
L'image que j'aime utiliser pour ça, puis je sais pas si je l'ai déjà utilisée dans le podcast, j'en utilise plein, là, mais celle-là, moi, c'est comme quand tu vas à l'optométriste, puis que genre les images au début sont un peu floues, côte à côte, puis éventuellement, elles se superposent parfaitement. Pour moi, c'est exactement ça, le sentiment que tu décris. C'est le moment où tu peux dire « Oui, c'est là que je vois à l'optométriste. » Optométriste ou opticien, je suis un peu mêlée. Mais,
C'est l'optométriste qui mesure ça. Ouais.
Donc, la conversation est vraiment, vraiment intéressante en ce moment. Je me sens vraiment dans le flow de mes sujets. Je voudrais juste continuer à l'infini. Pour moi, en ce moment, on est sur un high de « j'ai vraiment sacrément hâte de lire ton livre pour garder un vocabulaire adéquat dans un podcast ». Et je me dis que c'était un peu l'objectif aujourd'hui, c'était de créer, comme tu l'as dit toi-même dans une conversation pré-enregistrement, Sabrina, un appetizer. Et moi, je suis en appétit. Et j'espère que ceci sera contagieux pour notre auditoire. Donc, est-ce qu'on veut clore... Sur... Veux-tu faire un petit pitch de vente final, Sabrina, sur ton livre? Ou juste un slogan?
Ah, je suis tellement mauvaise pour faire ça. Jingle. C'est incroyable. Non, c'est incroyable à quel point je suis mauvaise pour faire ça. Là. Oubliez ça. Là. ça m'a tout... Non, mais, tu sais, parenthèse, ça m'a tout pris pour écrire le petit texte qu'il faut qu'il soit en couverture derrière. Là.
Oui.
Ça m'a tout pris juste pour réussir à faire ça. Honnêtement, je pense que j'ai déjà tout dit. Ça vaut la peine, honnêtement, de le lire avec grande attention. Je pense que ça va répondre à beaucoup de questions de la part des personnes, tu sais, douées ou qui soupçonnent une douance, autant que ça peut vraiment enrichir la connaissance puis l'intervention des professionnels qui vont vraiment intervenir, travailler avec ces personnes-là. Donc, moi, c'est ce que je crois vraiment, puis j'espère que ça va remplir la mission de au moins sensibiliser plus de gens à la présence, à l'existence des personnes douées, adultes, là. Puis par la suite, de leur donner envie, tu sais, d'en savoir plus, puis de découvrir ces personnes-là.
C'est ça, au plus grand bénéfice des organisations, au plus grand bénéfice des environnements scolaires, éducatifs, de haute éducation, puis pour les personnes douées aussi, pour s'actualiser. Puis il y a tellement de choses aussi qui, tu sais, comme on dit avec le, tu sais, je reviens avec le canari dans la mine, mais tu sais, ce que tu appliques pour une personne douée d'être capable d'être elle-même, d'actualiser son plein potentiel, ben si tu le fais pour toutes les autres, c'est bon aussi, là, tu sais, c'est pas une prescription à usage unique, là, je dirais. Mais je pense que, tu sais, je me sens aussi très appétisée. Puis là, ben en ce moment, on enregistre. Aujourd'hui, on est le 1er décembre. On diffuse cet épisode-là le 15 décembre. Puis c'est déjà en ligne sur notre nouveau site web, mais on a notre boutique. Puis on a réussi, dans le fond, pas on a réussi, ça n'a pas été vraiment difficile, là, mais quand tu nous as parlé de la sortie de ton livre, de faire cette collaboration-là pour nous mettre en valeur ton livre puis le vendre sur notre boutique puis aider aussi à financer nos transcriptions pour être encore plus accessibles. C'était ça aussi une des visées qui nous permettait de partir de cette web. Fait que merci à toi puis à ton livre de nous avoir permis cette occasion-là de vendre ton livre, de promouvoir ton livre puis de pouvoir le rendre disponible au grand public. Puis à tous ceux qui vont vouloir l'acheter, bien, si vous l'achetez via notre plateforme, vous allez avoir en cadeau avec achat un joli signet qui va être autographiée par vos neurodivertissantes et vous aurez la copie du livre signée par notre présente charmante Sabrina ici. Fait que un original signé de tout bord, tout côté, c'est ça que vous avez avec l'attrachat avec les neurodivertissantes.
Exact. Puis juste dire, là, pour vrai, moi je l'ai dit tantôt, mais Mélissa aussi a renchéri, t'as écrit un livre, c'est un accomplissement, on fait un peu de fangirling, mais j'ai l'impression de côtoyer une rockstar en ce moment. Là, pour moi, auteur, là, c'est bien au-delà de rockstar, okay, sachez-le. Autoriste. Tout ça pour dire qu'on le rappelle, douance et carrière, comprendre l'adulte doué pour mieux l'accompagner, Sabrina Gendron-Fontaine, retenez ça, elle va faire des projets de me recherche, des modèles, puis elle va être une vedette, fait que vous voulez sa copie signée, ok? Ça va valoir cher.
Oui!
C'est comme une vous avez comme vraiment des attentes élevées, là. Vous avez des attentes élevées envers moi, là.
Moi, j'ai réussi à t'écrire un livre en 5 mois, puis t'as réussi à écrire un résumé de 4e de couverture. C'est que des accomplissements.
Oh, tu 4e de couverture disponible aussi sur la page, dans le fond, dans la boutique, que vous allez pouvoir le lire aussi avant de commander le livre.
Hey, on a une boutique! Oui! Comprenez-vous ça, le discours? C'est incroyable!
On a un petit magasin.
Allez. Sur ce, on vous laisse, cher auditoire, on se reparle, merci. En fait, on se reparle, on se réécoute, on se reparle, on se réécrit la semaine prochaine. Merci beaucoup, Sabrina, merci pour ta générosité aujourd'hui, d'avoir divergé avec nous, de t'être laissé porter par toutes nos interruptions.
Ben, ça me fait vraiment plaisir, puis hâte de recollaborer avec vous dans le futur aussi.
Bye!
Bye!
Vous avez apprécié l'épisode? Vos animatrices ont eu du fun à vous le préparer et l'enregistrer. Pour les encourager, n'hésitez pas à parler du podcast à votre réseau, vos amis, vos collègues. Et si vous avez envie d'échanger, vous pouvez les trouver facilement sur la page Les Neurodivertissantes sur LinkedIn et sur Facebook.